Ils se dirigeaient vers la montrée de ceux de Saint-Aignan quand arrivèrent au grand trot à travers le camp 6 hommes d'armes, leurs chevaux blancs d'écume, eux-mêmes la face ruisselante et l'armure poudreuse. L'un d'eux mit pied à terre lourdement, demanda à parler au connétable et, s'en étant approché, lui dit « Je suis à messire de Boussicault, dont je vous apporte nouvelle. » Le duc d'Athènes, d'un signe, invita le messager à faire son rapport au roi. Le messager esquissa le geste de mettre genoux en terre, mais ses pièces d'armure le gênaient. Le roi le dispensa de toute cérémonie et le pressa de parler. « Sire, messire de Boussicault est enfermé dans Romorantin. » « Romorantin. » L'escorte royale resta un moment toute muette de surprise et comme étonnée de la foudre. « Romorantin. À 30 lieues seulement de Chartres, de l'autre côté de Blois. » On n'imaginait pas que les Anglais puissent être si près. Car durant que s'achevait le siège de Breteuil, que l'on envoyait Gaston Phébus en geôle, que le banc et l'arrière-banc lentement se rassemblaient à Chartres, le prince de Galles, comme vous le savez mieux que personne, Archambault, puisque vous étiez à protéger Périgueux, avait entrepris sa chevauchée à partir de Sainte-Foy et Bergerac, où il entrait en territoire royal, et continuait vers le nord, par le chemin que nous avons suivi, Château-l'Évêque, Brantôme, Rochechouart, La Péruse, y produisant toutes ces dévastations que nous avons vues. On était informé de son progrès, et je dois dire que je n'étais pas sans surprise de voir le roi se complaire à Chartres, tandis que le prince Édouard ravageait le pays. On croyait celui-ci, aux dernières nouvelles reçues, quelque part encore entre La Châtre et Bourges. On pensait qu'il allait continuer sur Orléans, et c'était là que le roi se disait certain de lui livrer bataille, lui coupant la route de Paris. En vue de quoi, le connétable, tout de même inspiré par la prudence, avait envoyé un parti de 300 lances, aux ordres de messire de Boussicault, de Cran et de Caumont, en longue reconnaissance de l'autre côté de la Loire, pour lui chercher les renseignements. Il n'en avait d'ailleurs reçu que bien peu. Et puis soudain, Romorantin. Le prince de Galles avait donc obliqué vers l'ouest. Le roi engagea le messager à poursuivre. D'abord, sire, messire de Chambly, que messire de Boussicault avait détaché à l'éclairer, s'est fait prendre du côté d'Aubigny-sur-Nère. « Ah, Grimouton est pris, » dit le roi, car c'est ainsi qu'on surnomme messire de Chambly. Le messager de Boussicault reprit, mais messire de Boussicault ne l'a point su assez tôt, et c'est ainsi que nous avons donné soudain dans l'avant-garde des Anglais. Nous les avons attaqués si roidement qu'ils se sont jetés en retraite, comme à leur ordinaire, dit le roi Jean. Mais ils se sont rabattus sur leurs renforts qui étaient grandement plus nombreux que nous, et ils nous ont assaillis de toutes parts, au point que messire de Boussicault, de Cran et de Caumont nous ont menés rapidement sur Romorantin, où ils se sont enfermés, poursuivis par toute l'armée du prince Édouard, qui, à l'heure où messire de Boussicault m'a dépêché, commençait leur siège. Voilà, sire, ce que je dois vous dire. » Il se fit silence de nouveau. Puis le maréchal de Clermont eut un mouvement de colère. « Pourquoi diable avoir attaqué? Ce n'était point ce qu'on leur avait commandé. Leur faites-vous reproche de leur vaillance ?» lui répondit le maréchal d'Audrehem. « Ils avaient débusqué l'ennemi, ils l'ont chargé. »« Belle vaillance, » dit Clermont. « Ils étaient 300 lances, ils en aperçoivent 20 et courent dessus sans plus attendre, en croyant que c'est grande prouesse. Et puis il en surgit 1000 et les voilà fuyant à leur tour et courant se mûcher au premier château. Maintenant, ils ne nous servent plus de rien. Ce n'est point de la vaillance, c'est de la sottise. » Les deux maréchaux se prenaient de bec, comme à l'accoutumée, et le connétable les laissait dire. Il n'aimait pas prendre parti, le connétable. C'était un homme plus courageux de corps que d'âme. Il préférait se faire appeler Athènes que Brienne, à cause de l'ancien connétable, son cousin décapité. Or, Brienne, c'était son fief. Alors qu'Athènes, ce n'était qu'un vieux souvenir de famille, sans plus de réalité aucune, à moins d'une croisade. Ou peut-être simplement il était devenu indifférent avec l'âge. Il avait longtemps commandé, et fort bien, les armées du roi de Naples. Il regrettait l'Italie, parce qu'il regrettait sa jeunesse. L'archiprêtre, un peu en retrait, observait d'un air goguenard l'empoignade des maréchaux. Ce fut le roi qui mit fin à leur débat. « Et moi je pense, dit-il, que leur revers nous sert, car voici l'Anglais fixé par un siège, et nous savons à présent où courir à lui, tandis qu'il y est retenu. » Il s'adressa alors au connétable. « Gautier, mettez l'ost en route demain, à l'aurore. Séparez-le en plusieurs batailles qui passeront la Loire en divers points, là où sont les ponts, pour ne point nous ralentir, mais en gardant liaison étroite entre les batailles afin de les réunir à lieu nommé, par-delà le fleuve. Pour moi, je passerai à Blois. Et nous irons attaquer l'armée anglaise par revers à Romorantin, ou bien, si elle s'en avise d'en partir, nous lui couperons toute route devant elle. Faites garder la Loire très loin après Tours, jusqu'à Angers, pour que jamais le duc de Lancastre, qui vient du pays normand, ne puisse se joindre au prince de Galles. » Il surprenait son nom, de Jean II. Soudain calme et maître de soi, le voici qui donnait des ordres clairs et fixait des chemins à son armée, comme s'il voyait toute la France devant lui. Interdire la Loire du côté de l'Anjou, la franchir en Touraine, être prêt soit à descendre vers le Berry, soit à couper la route du Poitou et de l'Angoumois, et au bout de tout cela, aller reprendre Bordeaux et l'Aquitaine. Et que la promptitude soit notre affaire, que la surprise joue à notre avantage. Chacun se redressait, prêt à l'action. Une belle chevauchée qui s'annonçait. Et qu'on renvoie toute la piétaille, ordonna encore Jean II. N'allons pas à un autre Crécy. Rien qu'en homme d'armes, nous serons encore 5 fois plus nombreux que ces méchants Anglais. Ainsi, parce que voilà 10 ans les archers et arbalétriers, engagés mal à propos, ont gêné les mouvements de la chevalerie et fait perdre une bataille, le roi Jean renonçait à avoir cette fois aucune infanterie. Et ses chefs de bannière l'approuvaient, car tous avaient été à Crécy, et ils en restaient tout meurtris. Ne pas commettre la même erreur, c'était leur grand souci. Seul le dauphin s'enhardit à dire « Ainsi, mon père, nous n'aurons point d'archer du tout. » Le roi ne daigna même pas lui répondre. Et le dauphin, qui se trouvait rapproché de moi, me dit, comme s'il cherchait appui, ou bien voulait que je ne le prisse pas pour un niais, « Les Anglais, eux, mettent leurs archers à cheval. Mais nul ne consentirait chez nous à ce qu'on donnât chevaux à des gens du commun peuple. » Tiens, ça me rappelle. « Brunet, si le temps demain se maintient dans la douceur qu'il a, je ferai l'étape, qui sera fort courte, sûrement pas le froid. Il faut me remettre un peu dans ma selle avant messe. Et puis, je veux montrer aux gens de Chalon, en entrant dans leur ville, que je puis tout aussi bien chevaucher que leur fol évêque Chauveau, qui n'a toujours pas été remplacé. »